Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC, RMC Story. Les GG, c'est votre émission. Et on le prouve encore aujourd'hui en étant en direct, en ce lundi 15 août, les amis. En direct pendant 3 heures pour discuter, pour débattre. On vous attend au 32-16. Et laissez-moi vous présenter aujourd'hui notre trio de GG qui va vous accompagner. Nous sommes avec le cheminot Bruno Poncé. Bonjour Bruno. Nous sommes avec Barbara Lefebvre, le retour de vacances, enseignante en reconversion. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous, je salue au passage Rachid VTC à Montpellier, qui est un super pro. Et voilà, si vous êtes à Montpellier, n'hésitez pas à faire appel à lui.
Oui, il est content de sa profession. C'est pas un râleur du moment.
Non, bah, il considère que quand on bosse, eh ben, on gagne correctement sa vie.
Un vrai patron, quoi.
Non, pas vraiment. Parce qu'il, il a quand même une grande conscience du fait que d'autres VTC sont exploités.
Mais il est à son compte.
Oui, il est à son compte.
Voilà. Et nous sommes avec Stéphane Manigold, restaurateur. Bonjour, mon cher Stéphane.
Bonjour, Alain. Salut les GG. Salut tout le monde. Et très heureux d'être parmi vous en ce jour férié.
Exact. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG à 11h? On reparlera de cette question récurrente tout l'été. Et je suis sûr que vous en avez sûrement parlé sur votre lieu de vacances ou pas, c'est-à-dire le problème de main-d'œuvre. On est au 15 août et on a encore des restaurateurs qui nous disent aujourd'hui, ou des hôteliers, ou des gens dans les services à la personne, ou des commerçants.
Des agriculteurs.
Voilà, des agriculteurs et, ou des artisans. Voilà, on manque de main-d'œuvre, on manque de bras. J'ai encore en tête le commerçant que j'ai vu ce week-end, je me dis, il manque une vendeuse pour pouvoir finir correctement la saison et je peux faire du chiffre et il y a des belles primes, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne trouve toujours pas là au 15 août de quoi finir l'été, de la main-d'œuvre pour finir l'été? Est-ce que c'est la faute des salaires et des patrons? On en parlera tout à l'heure à 11h. À 10h, des jacuzzis percés parce qu'il vaut mieux boire l'eau que de la mettre dans les jacuzzis. Des golfs que l'on a bouchés parce qu'il ne faut plus arroser les golfs. Les militants écologistes radicaux sont passés à l'action ces 3 derniers jours. Alors, est-ce que ce sont de vrais emmerdeurs ou au contraire nos sauveurs? Là encore, 32-16 pour venir en parler avec les GG, avec les grandes gueules, tout à l'heure à 10h. On va reparler notamment maintenant de Salman Rushdie, de sa tentative d'assassinat. Il va un peu mieux. L'Iran dément toute implication dans ce qu'a fait l'assaillant. Le président de la République part d'un combat universel. Est-ce que le combat de Salman Rushdie, c'est le nôtre? 32-16 pour en discuter avec les GG.
L'islamisme et ce terrorisme a le temps long. Nous, on a l'impression que ça va se calmer, que c'est terminé, il y a les procès qui ont eu lieu, donc ça... Mais pas du tout. Eux, ils sont dans un temps très très long, 10, 20, 50 ans, peu importe. Et leur but est de neutraliser la liberté de parole, la liberté de pensée, la liberté de blasphème, la laïcité en France. N'oubliez jamais ce qui s'est passé avec les attentats du 13 novembre 2015. Extrêmement structuré, des positions guerrières, des plans d'attaque. C'est pas n'importe quoi et ce n'est pas fini.
Voilà, vous avez entendu Patrick Pelou, compagnon de route de Charlie Hebdo, qui nous rappelle que les islamistes ont le temps long et qu'ils trouvent toujours de manière individuelle à l'époque de Daesh avec des attentats programmés le moyen de frapper quand il le faut. En Iran, le quotidien ultra-conservateur Kayan a félicité, je cite, « l'homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie ». Javan, un quotidien aussi proche du pouvoir, qui écrit qu'en fait il s'agit d'un complot des États-Unis qui veulent propager l'islamophobie partout dans le monde. Salman Rushdie attaqué, l'Iran officiellement dément tout lien avec l'assaillant. L'écrivain, lui, l'auteur des versets sataniques, qui est menacé depuis 1989, va mieux. Il n'est plus sous assistance respiratoire, mais il va garder, bien sûr, des séquelles de son attaque. L'agresseur, Adi Matar, est né aux États-Unis. Il plaide non coupable. Alors, ce qu'il y a bien avec la justice américaine, c'est qu'il va comparaître dans 4 jours.
Ouais.
Dans 4 jours, il est devant la justice, il plaide non coupable. Sur son profil Facebook et son faux permis de conduire, ça ne laisse aucun doute quant à son admiration pour les gardiens de la révolution iranienne, pour le Hezbollah et l'Ayatollah Khomeini. Dans le monde entier, disons dans les capitales occidentales, on a condamné cet attentat, fait part de son soutien et des vœux de rétablissement auprès de Salman Rushdie. Le président Macron a envoyé un tweet en disant « Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. La haine et la barbarie viennent le frapper lâchement. Son combat est le nôtre, dit le président de la République. Il est universel. » Le combat de Salman Rushdie est-il le nôtre? Est-ce que ça fait renaître des peurs chez vous? 32-16 pour le dire au grand Guillaume. Mais je remarque, il ne dit pas islamisme, le chef de l'État. Il parle d'obscurantisme.
Oui, on continue avec des formes d'euphémisme. Effectivement, c'est ce qui m'a frappé. Alors, bien entendu, il y a eu l'expression d'une solidarité du chef de l'État. C'est bien, parce que ça montre quand même qu'on a évolué. Rappelons-nous des propos à l'époque, en 1989, des grands dirigeants politiques français, et je pense notamment à Jacques Chirac, il n'était pas encore président de la République, mais Jacques Chirac qui disait que, bien entendu, Rushdie, c'était inacceptable d'écrire des livres dans lesquels on blasphémait la religion. À l'époque, d'ailleurs, Monseigneur Lustiger et d'autres autorités religieuses non musulmanes, hein, catholiques, disaient que, bien entendu, il fallait condamner Salman Rushdie, au même titre d'ailleurs qu'il fallait condamner Scorsese, qui venait de sortir La Dernière Tentation du Christ. Donc on se rappelle quand même qu'à l'époque où Salman Rushdie subit la fatwa de Khomeini, il n'est pas tellement soutenu par les élites politiques françaises, les élites intellectuelles non plus. Donc, heureusement, aujourd'hui, Emmanuel Macron vient en soutien fort et marqué envers Salman Rushdie. Néanmoins, effectivement, le terme de islamisme ou d'islam politique aurait été le bienvenu. Mais en ces temps troublés où nous avons quand même besoin de nos amis du Golfe saoudien.
Rappelons qu'on a reçu Mohamed Ben Salman il y a quelques 10-15 jours à l'Elysée, trois semaines.
On va avoir la Coupe du Monde au Qatar. Les Qataris sont les grands financeurs, à la fois notamment, ils financent aussi le Hamas, ils financent le Hezbollah, parce que bien qu'ils soient sunnites, ils financent quand même le djihadisme chiite à travers différentes branches. Donc tous ces gens-là sont quand même, par ailleurs, nos alliés sur des questions économiques, sur des questions de soft power sportif.
Donc par intérêt, pour ne froisser personne, tu penses que le président de la République volontairement ne dit pas islamisme?
En tout cas, je ne comprends pas pourquoi toujours dans ces
Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, a dit islamiste dans son tweet.
Oui, en même temps, Fabien Roussel signe des signe des propositions de résolution débiles à l'Assemblée nationale sur l'apartheid en Israël. Donc on voit que c'est la grande confusion chez les communistes. Donc non, en tout cas, il y a un petit progrès. On en reparlera tout à l'heure. J'ai relevé des propos qui étaient tenus en 1989 au moment de la fatwa de Salman Rushdie. On peut se dire qu'au moins sur ce plan-là, de la prise de conscience collective et en particulier de nos élites dirigeantes. Heureusement, le soutien plein et entier à Salman Rushdie, victime de cet attentat.
Donc, faut vraiment se rappeler que voilà, Salman Rushdie, même si toute une génération, ils l'ont découvert avec cet attentat, mais ce qu'il fait, ce qu'il dit, ses conférences, c'est pour nous qui continuent de se battre, d'écrire et de faire des conférences. Bruno Poncé.
C'est un sujet qui me touche un peu, malheureusement.
Je rappelle que tu es rescapé des attentats du Bataclan.
Et c'est ça, le terrorisme. C'est instiller la terreur pendant des années. Enfin, il faut quand même se rappeler que ça a été prononcé il y a 33 ans par quelqu'un qui est mort. C'est un gamin de 24 ans qui fait l'attentat. Donc, ce qui veut dire que ces idées, que cette peur a été vraiment instillée dans la société, c'est aussi un frein à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, parce que en fin de compte, des mecs comme Rushdie certainement derrière ont certainement eu peur pour écrire des choses. Donc c'est vraiment ça, le terrorisme. Et un gamin qui a ni connu Khomeini, qui a même pas lu le bouquin, parce que déjà la plupart de ceux qui l'ont condamné en 89 l'avaient pas lu, ils avaient entendu via deux trois extraits ce qui était dedans. Et là,
rappelons que les réseaux sociaux, on est en 89, n'existaient pas à l'époque. Le monde s'est embrasé avec les versets sataniques de Salman Rushdie, parce que c'était les mollahs de l'époque à l'Iran étaient surpuissants. Imagine un Salman Rushdie, ça aurait fait comme les caricatures de Mahomet à l'époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quoi.
Déjà que c'était hyper violent à l'époque, mais je sais pas comment ça.
Ça ravive les peurs, ça ravivait un peu de peur chez toi, d'appréhension ou pas, ce qui s'est passé.
Non, malheureusement, parce que moi je sais pas pour vous, mais pour moi, malheureusement, je vis dans ça depuis des années, et j'ai pas attendu, malheureusement, d'être moi-même touché par ça pour voir que, enfin, on vit dans une société qui est comme ça, où la violence est vraiment présente. Et en plus, ce qui me rend triste,
ouais, c'est en colère,
ouais, il y a de la tristesse, de la colère, c'est surtout de se dire qu'un gamin de 24 ans, c'est comme si vous aviez un Français de 24 ans qui
Adi Matar, l'auteur et qui est né aux États-Unis en plus.
Mais c'est comme si vous aviez un Français de 24 ans qui idolâtrait Hitler et qui faisait euh, qui faisaient un truc qu'Hitler avait demandé il y a 50 ans ou 80 ans. Enfin, moi,
de leur caverne.
Hein. Ouais, enfin, ce qui est triste.
Mohamed Merah. Hein. Mohamed Merah qui est né à Toulouse et qui d'un coup s'est senti investi d'une espèce de mission de combat terroriste.
Ça compte pas de savoir où vous êtes né. Quand vous êtes biberonné à une idéologie, cette idéologie, elle est internationaliste. Comprenez bien que le djihadisme, c'est pas une question de être français, être américain. C'est pas parce qu'on est français ou américain de nationalité que ça vous immunise contre le fait d'être biberonné à une idéologie, à un bain culturel dans lequel vous êtes par votre famille, par exemple, parce que les Merah, ils baignaient dans cet univers-là, cet univers de à la fois de violence intrafamiliale.
Ça, quand tu grandis aux États-Unis, tu grandis aussi dans un univers qui est quand même peut-être celui de l'égalité, mais aussi de l'ouverture d'esprit, où tu as beaucoup de choses autour de toi.
Tu grandis aussi dans un pays très communautariste, où la liberté religieuse est comprise dans ses extrémités absolues, où tu peux avoir des églises hyper fondamentalistes qui t'autorisent la polygamie et qui t'autorisent des groupuscules.
Mais tu grandis aussi dans le pays du basket, le pays du rap, pays du rock'n'roll.
Tu es dans ta bulle. Cette idéologie qui est une idéologie mortifère et internationaliste et qui a pour but d'internationaliser le djihadisme, que ce soit le djihadisme chiite à travers la fatwa Khomeini ou le djihadisme sunnite à travers tout ce qu'ont fait les Saoudiens, Al-Zawahiri, parce que aussi Al-Zawahiri qui vient de mourir tué sur son balcon à Kaboul par un drone américain, bon débarras. Et donc la fatwa de Khomeini, elle venait aussi s'affronter au djihadisme sunnite. Donc c'est aussi un affrontement entre des djihadismes concurrents, les chiites et les sunnites. Oui. Néanmoins, ils sont dans le même combat, qui est celui de diffuser un islam mortifère, un islamisme qui d'abord tue les musulmans et permet aussi à certains de faire des généralités sur les musulmans. Mais néanmoins, excusez-moi, vous avez entendu là des grands dignitaires musulmans français
s'exprimer. J'ai pas vu de communiquer de la grande mosquée de Paris non plus. Aussi,
il est là le problème, excusez-moi, la grande mosquée de Paris qui d'ailleurs à l'époque, n'est-ce pas, monsieur Dalil Boubaker, avait demandé à France Télévisions d'annuler la venue de Salman Rushdie chez Bernard Pivot en 96 et tout le monde dans la classe politique avait trouvé qu'en effet, c'était pas très bien d'inviter Salman Rushdie chez Pivot.
C'est dû faire le forcing à l'époque, mise
donc,
de la culture.
Rappelons-nous, et là, on est en 2022, on aurait aimé que les responsables musulmans français s'indignent de cet attentat et condamnent cet individu et au contraire célèbrent la liberté d'expression de Salman Rushdie.
Stéphane Manigold.
Je note que nous sommes le 15 août, il est 9h14, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours rien dit sur cet attentat terrible. Et moi, je trouve choquant que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui est suivi par une communauté quand même de 2 600 000 personnes qui le suivent sur Twitter, n'ait pas un mot. Qui retweet que Rachida Dati vienne à un espèce de congrès...
le 26, à la fête des Insoumis à Valence, dans la Drôme.
C'est très bien. Mais je crois que l'événement pour Jean-Luc Mélenchon, c'est celui-ci. C'est pas l'attaque terrible qu'a subi Salman Rushdie. Et ça, on peut que le condamner. Moi, je trouve que
Alexis Corbière, l'un des porte-parole de la France Insoumise, l'a condamné à tweeter assez rapidement.
Jean-Luc Mélenchon, c'est l'ancien monde. Il faut qu'il prenne sa retraite définitivement. Il faut que de nouvelles personnes arrivent. Et ça, c'est sur plein de sujets. Mais celui-ci.
Ça veut dire quoi qu'il est ambigu. Il a jamais été ambigu vis-à-vis du terrorisme, de la liberté d'expression.
Soit il est parti sur Mars en vacances, il a pas la télé, il se passe un truc. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'un leader comme lui, à un moment, ne se positionne pas sur un fait aussi grave, aussi dramatique. Rappelons, et tu l'as dit.
T'as entendu tous les leaders politiques condamner l'attentat, là, pour l'instant. Moi, j'ai pas entendu.
Les grands leaders, oui.
Bah, moi, j'ai pas. Bah, cite-les-moi tous.
Je vais tous les citer. Dis-moi qui, pour toi, n'a pas condamné. Moi, je te cite Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est factuel. Il a pas condamné. Et aujourd'hui, tu l'as rappelé, Alain, ça fait 33 ans que cette fatwa lui est tombée dessus. 33 ans! T'imagines, toi, pendant 33 ans, tu vis dans la peur, tu vis et tu continues. Simplement parce que tu as écrit un tout petit passage de ces versets et derrière, tu es condamné à mort en 1989. Moi, j'avais 9 ans quand il a été condamné à mort. Vous vous rendez compte? Et là, 33 ans après, il est frappé. Heureusement, il s'en sort. C'est une bonne chose, mais l'intolérance, c'est chez eux. Il serait temps que ces gens-là sortent de leur caverne et découvrent que le monde, c'est fini. On n'est plus, il y a des siècles et des siècles comme ils souhaitent encore en vivre. Nous, on est dans un pays libre, on est dans un pays de liberté, on aime la liberté. Eh bien, gens-là l'aiment pas, qu'ils restent entre eux, mais qu'ils nous foutent la paix.
Ce qui serait intéressant, Salman Rushdie vit aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, lui-même, ces derniers temps, il avait accordé une interview dans laquelle il disait « Je me sens libre, je me sens de nouveau respirer. » Et la protection policière autour de lui.
Mais d'ailleurs, on peut se poser la question.
était, voilà, avait baissé d'un cran.
Je crois que t'as dû voir la vidéo de l'attaque.
Oui.
Enfin, comment
le type monte sur l'estrade.
Je veux dire, une personnalité comme ça, menacée de mort, et on le sait. Au niveau de la sécurité, comment c'est une passoire au niveau de la sécurité, c'est pas possible.
C'est comme la mafia, tu sais, c'est le temps long pour il y a toujours un moment où tu frapperas. Mais du coup,
j'imagine la haine comme elle est profonde et viscérale et ancrée chez ces gens-là.
Et tu sais,
c'est abominable.
Ouais. Je me disais, du coup, tiens, Salman Rushdie, mais la dernière fois qu'on l'avait invité en France à un salon ou quoi que ce soit, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est toujours, et pardon pour la mauvaise expression, mais la patate chaude en fait. Tu sais, c'est-à-dire, inviter Salman Rushdie, quand même, nous, on a eu des attentats. Est-ce que c'est bien prudent, tu vois? Ou j'espère qu'il s'en sortira. J'espère qu'il n'aura pas trop de séquelles. Qu'à la limite, la France honorerait aussi un jour à faire venir Salman Rushdie et à ce qu'on l'applaudisse. Mais quand depuis 40 ans, continuer de mener son combat. Non, Bruno. Enfin,
moi, je trouve que c'est pas une patate haute. C'est plutôt un honneur de recevoir quelqu'un comme ça.
Bien sûr.
Parce que quand il vient quelque part, déjà, tu parles de peur, et c'est effectivement, t'as la peur. Mais déjà, ça lui donne un courage phénoménal. Enfin, cet homme, partout où il est passé, il a essayé de distiller une parole de paix.
On peut être admiratif sur son courage.
Sachant qu'en plus, son livre, au départ, vers ses années, c'était plutôt un livre assez drôle, c'était une parodie. Donc, il y avait pas non plus, c'était pas quelqu'un qui était engagé politiquement au point de vouloir.
C'est-à-dire que les mollahs iraniens, côté parodie et humour, ils sont pas réputés, c'est
même
pas trop leur truc.
Côté lecture, hein, parce que Khomeini avait dit qu'il n'avait même pas lu le livre.
Mais personne, il y a très peu de gens qui ont dû le lire, certainement.
On va continuer la discussion avec vous au 32-16. Salman Rushdie, est-ce que ça ravive les peurs? Comme le dit le président de la République, on doit être à ses côtés. Le combat de Salman Rushdie est-il le nôtre? 32-16 pour venir en discuter avec les GG dans un instant. Gilbert qui nous appelle de l'Hérault, du côté de Frontignan. La discussion continue dans les GG, dans les Grandes Gueules. A tout de suite en ce lundi 15 août en direct sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est tous les jours, c'est en direct sur RMC, RMC Story, aujourd'hui avec le restaurateur Stéphane Manigold, Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, nous sommes avec le cheminot Bruno Poncet, on parle de ce qui est arrivé terrible, l'attentat contre Salman Rushdie, qui est en train d'aller, enfin, ça va un peu mieux, il va garder des séquelles, bien sûr, parce qu'il a reçu 10 coups de couteau, ou 15 coups de couteau en l'espace de 10 secondes, quoi, si tu veux. Donc c'était vraiment un acharnement, toute la rage de cet assaillant contre lui, de Atti Matar, qui plaide non coupable, mais qui va passer devant la justice américaine là, le 19 août. Et c'est vrai que ça ravive, surtout chez nous, en plus en France, où on a été frappés depuis 35 ans, maintenant 40 ans, par les attentats islamistes. Ça ravive des choses, bien évidemment. On reparle de la liberté d'expression. Salman Rushdie, ça nous rappelle Charlie Hebdo. Et le président de la République écrit, son combat est le nôtre, il est universel. Est-ce que vraiment le combat de Salman Rushdie, ça doit nous rappeler combien il est important? Est-ce que c'est vraiment le nôtre? C'est Gilbert qui va en parler avec nous au 32-16. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous avez réagi? Est-ce que son combat est le nôtre à Salman Rushdie, Gilbert?
En fait, je me pose deux questions, si vous permettez.
Je vous en prie.
Question juridique. Est-ce que l'incitation au meurtre et la menace de mort sont condamnables par la loi?
Ah oui, oui, bien sûr.
Un délit. Ah.
Donc on a déjà une arme.
Ah oui.
Bon. Deuxième question. Si cette patrouille est exécutée, est-ce qu'on peut parler de complicité de meurtre?
De l'Iran?
De l'Iran ou de celui qui a proféré cette fatwa.
Là, on va aller sur un terrain juridique qui va être compliqué à démontrer quand même.
Je vais bien répondre sur le premier point.
Ça, c'est les Américains qui vont devoir le démontrer. De toute façon, si vous voulez, les Américains, le lien avec l'Iran, ils vont pas forcément le faire. Ils vont juste se limiter à la tentative d'assassinat ou la tentative de
missile. Je veux bien répondre sur le premier point. J'ai été menacé il y a quelques mois par un néo-nazi en octobre exactement. Menace de mort. On l'a retrouvé. Et enfin, la justice.
Menace de mort sur les réseaux
menace
sociaux.
Menace de mort, oui, clairement, vocale. On aura ta tête. On sait où t'habites. Je vais te buter. Enfin, je passe les mots d'oiseau derrière, plus les menaces de mort. Il a écopé de 3 000 euros d'amende, enfin de condamnation et 6 mois avec sursis. Voilà ce que risque quelqu'un qui menace de mort dans ce pays. Moi, je trouve que c'est accessoirement une bonne décision. Mais c'est pas assez dissuasif. 6 mois de sursis, 3 000 euros d'amende. Je remercie mon avocat Eric Morin, d'ailleurs, au passage, qui l'a retrouvé, et les services de police, parce qu'on a des services de police qui sont d'une efficacité remarquable. En moins de 6 mois, il a été retrouvé et condamné.
On a une centaine de personnes, Gilbert, en France. Hein. Une centaine de personnes, de personnalités connues ou non connues, qui sont sous la menace, sous des menaces islamistes directes et qui sont sous protection policière.
Non, mais Gilbert soulève un sujet et un problème intéressant en termes de droit international. Le matar là en question, excusez-moi, il a agi seul. Non, il n'a pas agi seul. Il est le bras armé d'un commanditaire. Ce commanditaire, c'est l'État islamique d'Iran, c'est-à-dire la République islamique d'Iran.
C'est pour ça que l'Iran ce matin dément tout lien avec
l'assaillant. Dément tout lien, n'importe quoi, c'est eux les commanditaires. L'ayatollah Khomeini, puis derrière Khamenei, parce que l'ayatollah Khamenei qui a succédé à Khomeini a réitéré la fatwa. La fatwa, elle a été relancée derrière par Khamenei. Donc la République islamique d'Iran assume être le commanditaire. Donc les États-Unis pourraient très bien aller jusqu'à la Cour pénale internationale pour traduire la République islamique d'Iran au titre du commanditaire de cet attentat. Donc ce monsieur Hani Matar n'est absolument pas le loup solitaire qui a fait ça tout seul et qui s'est radicalisé lui aussi tout seul devant son ordi. Ça, alors franchement, qui peut encore croire à ces sornettes-là? Le radicalisme tout seul devant son écran, ça n'existe pas. Encore une fois, ces gens sont biberonnés.
Ça existe. Hein.
Non, mais ça existe. Mais ils sont biberonnés à quoi?
Ça existe beaucoup plus que ce que tu crois,
mais non, mais
malheureusement.
C'est pas ça. Je
pense que les préjugés là sont pas bons du tout parce qu'il faut faire très attention. Alain vient d'une ville où c'est un mec qui s'est radicalisé le matin pour prendre un camion.
Non, mais ce que je suis en train de dire,
c'est malheureusement,
tu comprends pas ce que je dis. Ces gens-là, ils se radicalisent tout seuls si tu veux, mais ils viennent s'abreuver à une source qui est une source idéologique qui circule sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as des émetteurs de cette idéologie qui, bien entendu, ne les appelle pas au téléphone pour leur dire « Regarde mon site internet ». Donc, bien entendu qu'il y a une radicalisation solitaire. Mais il faut aller chercher à la source qui les abreuve.
Tu vois bien.
C'est ça le problème. Et ceux qui les abreuvent, ce sont des États que nous soutenons, nos alliés.
C'est intéressant parce que ce que dit Gilbert et que tu relayes, du coup, tu dis aujourd'hui, si les États étaient courageux,
bien sûr,
on devrait presque avoir une action collective internationale pour traduire l'Iran devant la Cour pénale, pour le financement du terrorisme.
Est-ce
qu'on peut descendre de quelques échelles sur le sujet juridique? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, voulait expulser l'imam Iqoussi, qui a tenu des propos parfaitement abjects. Sa place n'est plus sur le sol français. Est-ce qu'on a réussi à l'expulser? Pour l'instant, non. Alors, avant d'aller devant la Cour internationale des droits
de manière symbolique, ça pourrait être de manière symbolique.
Ce que je dis simplement, c'est que.
Déjà, là, quand t'es ministre de l'Intérieur, t'arrives pas à expulser un sale type. Je dis bien un sale type qui tient des propos antisémites, homophobe.
Ce que j'essaie simplement
c'est que
s'en prendre uniquement d'un point de vue pénal à celui qui tient la Kalachnikov ou celui qui tient le couteau, c'est insuffisant si derrière on ne combat pas l'idéologie. Et l'idéologie, elle vient pas d'internet tout seul, elle vient d'un certain nombre de structures qui sont quasi étatiques.
Elle est favorisée
les frères musulmans sont au pouvoir dans de nombreux pays, ou quand ils sont pas au pouvoir, ils exercent des pressions sur les régimes. Un certain nombre de régimes.
Et on les reçoit en France comme des chefs d'État.
Et par ailleurs, non seulement on les reçoit en France, les Saoudiens, les Qataris, on leur fait des ponts d'or pour nous acheter des clubs de foot. Et il y a toujours, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas supporter de voir, alors ça va paraître absurde, mais moi, les supporters avec leur t-shirt Qatar, ils sont contents. Qatar, moi, je suis désolée.
On avait reçu Vladimir Poutine.
Excuse-moi, alors je ne vais pas comparer Vladimir Poutine qui n'a pas encore commis d'attentat islamiste.
Il a juste envahi un pays. Les opposants.
On est en train de parler du terrorisme.
Je comprends.
Attends.
Mais je veux bien suivre votre logique. Mais si on suit cette logique, il y a un moment, on ne va plus parler avec personne.
En tout cas, je vais te dire.
On va parler contre les gens
diplomatiques. Ça sert à ça.
Je suis d'accord avec toi. En tout cas, on s'en prend plus aujourd'hui au régime de Vladimir Poutine avec toutes les sanctions qu'on fait, qu'on s'en prendra jamais aux Qataris et jamais aux Saoudiens autant. Excusez-moi, mais pour l'instant, les djihadistes sunnites et les djihadistes chiites dorment sur leurs deux oreilles et ils sont même bien contents de venir se voir dérouler le tapis rouge à l'Élysée.
Rompre le dialogue, c'est rompre tout espoir qu'à un moment les gens puissent se mettre autour de la table et changer.
Tu dialogues avec des Iraniens, oui, avec l'opposition iranienne persécutée. Tu discutes pas avec un régime.
On dit la même chose. On discute, on dialogue.
De la même façon que tu dis pas, on discute pas avec MBS,
Bruno.
Excuse-moi.
Non, mais Stéphane, ça s'entend. Ce que tu dis, le vrai problème à un moment donné, c'est est-ce que quand tu es, alors soi-disant, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, est-ce que tes valeurs sont pas plus importantes qu'à un moment donné que le business? Enfin, moi, je trouve, et moi, j'essaie de vivre comme ça dans ma vie de tous les jours, mes valeurs sont plus importantes que, des fois, mon confort ou mon luxe. Et c'est comme ça. Et nous, en France, notre confort, notre luxe, et puis le business est toujours plus fort que nos valeurs. Moi, je suis désolé.
Je suis d'accord
avec toi. Je suis encore plus choqué aujourd'hui, quand qu'on peut me dire l'attentat, c'est horrible, mais nous on reçoit le prince saoudien. Enfin, je vous rappelle quand même ce qu'il a fait à un journaliste de chez lui dans une ambassade turque, enfin dans l'ambassade saoudienne en Turquie. Enfin voilà, tous ces gens-là qu'on reçoit le Qatar. Moi, je suis fan du PSG. Faut moi garantir aussi. Que moi, je suis plus que malheureux depuis que le Qatar est là, parce qu'à un moment donné, enfin moi, c'est pas mon club, et quand j'y vais, voilà. Et d'ailleurs, je retourne plus au Parc des Princes depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que nos valeurs soient plus importantes que tout ce qui est autour. Et le vrai
oui, point de vue. Mais est-ce que sur le sol français, ils respectent les règles? Oui. Après, dans leur pays, ils sont souverains. Mais dans, sur le sol français, ils respectent les règles.
Oui, mais tu les fais pas venir. On a fait venir Kadhafi chez nous pour après aller le bombarder. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux. Mais non, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine tenue.
Alors, je voudrais qu'on discute. Et je remercie Gilbert d'avoir alimenté notre discussion en posant une bonne question, effectivement, oui, sur l'Iran et ses appels avec cette fatwa qui est ni plus ni moins qu'un appel au meurtre.
Ce sont les commanditaires.
À tuer quelqu'un. Nassera est avec nous, fidèle des GG. Bonjour, Nassera.
Bonjour Alain.
Bonjour. Est-ce que Salman Rushdie, son combat est le nôtre plus que jamais?
Moi, je me sens pas du tout concernée et dans la mesure où.
Pourquoi?
Parce que on est dans un tournant et moi, j'aimerais juste préciser à Barbara Lefebvre quand même. Il faudrait peut-être m'expliquer que au nom de quoi et au nom de qui les États-Unis devraient produire la République islamique d'Iran devant la Cour internationale pénale des droits de l'homme. Parce que, pour info, il me semble que les États-Unis n'ont pas ratifié justement cet accord.
C'est vrai.
Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, nous, les traduire, les Américains,
pour en les justice pour l'Irak.
Pour les crimes qu'eux ont commis, hein, en Irak et ailleurs, hein, bien évidemment. Donc, moi, je veux bien.
Eh ben, voyez, oui, ben, une autre
institution.
Eh ben, l'ONU peut le faire. L'ONU peut traduire excusez-moi, il y a des commanditaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant que lorsque vous êtes le commanditaire d'un meurtre, si demain vous vous décidez de payer quelqu'un pour aller tuer, votre concurrent dans le business, eh ben, vous êtes considéré comme le commanditaire. Donc, vous êtes aussi celui qui va répondre du meurtre. Donc, après. Bon, si ça vous intéresse pas de savoir qui a émis la fatwa, bah tant mieux. Hein.
Barbara, on parle à l'échelle mondiale.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Il va falloir aussi peut-être que tout le monde intègre.
Pardon, mais vous répondez pas à la question.
On n'est plus dans un monde où les États-Unis étaient le gendarme du monde.
Ouais. Et non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas ça le sujet.
C'était pas la question d'Alain Marshall.
C'est pas du tout le sujet.
La question d'Alain Marshall, elle est très intéressante.
Ah oui.
Est-ce que vous condamnez l'attaque de Salman Rushdie?
Oui.
C'est ça la question. S'il vous plaît.
Nassera, on est d'accord que Salman Rushdie, comme dit l'expression, il est des nôtres. On est avec lui.
Évidemment que je condamne Salman Rushdie. Mais en même temps, il faut arrêter. Moi, je voyais depuis là quelques jours, j'entends des gens prendre la parole, témoigner. Bon, il faut peut-être aussi un petit peu faire reprendre l'historique de comment on a fait monter l'islamisme, comment les Occidentaux ont fait monter l'islamisme. Ah, c'est-à-dire que les Occidentaux, à la chute du mur de Berlin, ont vu que les communistes étaient tombés. Donc on a fait tomber les communistes, on s'est dit, ça y est, on n'a plus d'ennemis, comment on va faire pour tenir un petit peu les populations occidentales. Donc l'Occident, s'il n'a pas d'ennemis désignés et reconnus, est incapable de gouverner.
Loin,
excusez-moi, le wahhabisme, al-Wahhab, en Arabie Saoudite, au XVIIe siècle, c'est à cause de la chute du mur de Berlin. Le wahhabisme, excusez-moi, c'est né dans le désert saoudien, la famille des Saouds et le al-Wahhab. Donc je vois pas le rapport. Hassan al-Banna, on est dans l'Égypte coloniale. Alors vous allez me dire c'est la faute de la colonisation, si vous voulez. Enfin Hassan al-Banna.
Khomeini, c'est la faute de la France parce qu'il vivait à Neuf-le-Château.
Voilà,
aussi,
à Neuf-le-Château. Donc si vous voulez, moi je veux bien. Vous avez tout à fait raison sur un point. Bien entendu que l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques et ensuite la chute de Kaboul. Avec les soviétiques, ça a joué un rôle. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et les Américains sont partout où ils arrivent des gens qui, on va le dire, mettent une pagaille pas possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, excusez-moi, mais disculpez les élites islamistes de la naissance interne de cette idéologie mortifère qui a été la maladie de l'islam. Je crois que là, vous êtes un petit peu à côté de la plaque.
Donc, Nassera, c'est vous qui aurez conclu la discussion. On a posé la question, Salman Rushdie, est-ce que son combat est le nôtre? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. On va regarder le résultat. C'est un oui à 72%, mais on a quand même 28% de nom. Bah,
pour ma part, c'est 800 mais. Hein.
Bah, ouais.
Ah oui, c'est oui.
Il y a des
oui,
grandes
oui.
chances que ça soit oui avec un mais, parce que c'était pareil pour Charlie Hebdo. Ils ont plus le droit de faire des caricatures parce que il y a 6-7 ans, ils avaient le droit. Puis d'un seul coup, maintenant, quand ils font un truc, ouais, mais quand même, ils exagèrent. Non, ils exagèrent pas. Ils viennent d'expression tout le temps.
Je rappelle qu'en 1989, quelques semaines après la fatwa, Véronique Sanson avait dû retirer de son tour de chant sa chanson Allah. Et quand Isabelle Adjani, en 2014, avait dit ce que j'avais fait au César en mars 89, où j'avais lu des extraits, je ne pourrais plus le refaire, sinon c'est mettre ma tête sur le bio. Donc on voit bien quand même que, heureusement, dans l'opinion, on a progressé, mais on voit quand même qu'il y a encore des résistances à la question. Mais on le rappelle, on a le droit de blasphémer en France. Et qui plus est, quand on est un non-musulman, on a le droit de dire ce qu'on veut sur l'islam, j'ai pas dit sur les musulmans. A fortiori, on ne blasphème pas puisqu'on n'est même pas soi-même musulman. De la même façon, quand on est, si on est non-juif, on a le droit de dire ce qu'on veut sur le judaïsme. Et quand on n'est pas chrétien, on a le droit de dire ce qu'on veut sur le christianisme, car le blasphème n'existe pas en France.
Y compris quand on est dans cette religion, on a le droit d'avoir un peu d'humour et d'esprit.
Oui, et puis je rappelle que ça concerne que les croyants, de toutes les manières, qui eux-mêmes se sentent offensés. C'est votre droit de vous sentir offensé.
Vous sentez offensé, vous tournez le bouton. Voilà. Et vous changez de chaîne.
Il est 9h37, on dit aussi 10h-25. Dans un instant, le monde de Macron 2. On va commencer à tirer les leçons de ces incendies qui ne sont pas terminés. Le chef de l'État va recevoir les pompiers, les agriculteurs, les élus. On cherche des moyens d'améliorer la prévention et la lutte contre les incendies. On va en parler avec Bruno Poncet, Barbara Lefebvre et Stéphane Manigold.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules avec aujourd'hui le restaurateur Stéphane Manigold, le cheminot Bruno Poncet, Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Tout à l'heure, prochain long sujet, le sujet de discussion auquel vous pourrez participer au 32-16. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire chauffer le clavier d'ailleurs. C'est la radicalité de certains militants écologistes tout à l'heure à 10h. Vous savez, qui ont percé des jacuzzis, qui ont cimenté les trous des golfs en disant l'eau, elle n'est pas pour les golfs. L'eau, elle n'est pas pour les jacuzzis. Alors, ce sont des méthodes radicales, effectivement. Ce sont des emmerdeurs ou ce sont des sauveurs? 32-16 pour venir en parler avec les GG tout à l'heure à 10h. En attendant, allons-y pour le monde de Macron 2.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
Dans le monde de Macron, le chef de l'État prévoit de réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés par les incendies de l'été. Je parle comme si c'était terminé. Non, ce n'est pas fini, mais la décision de réunir tout le monde a été prise. Une fois que tous les foyers auront été éteints, il s'agit de réfléchir, je cite l'Élysée, au modèle de prévention et de lutte contre les incendies en France. Viendront les pompiers français, les pompiers européens, les pompiers bien sûr d'outre-mer, les agriculteurs, les élus, et à charge tout le monde d'émettre des propositions et d'essayer de ce qu'on appelle ouvrir les travaux. Pompiers qui avaient manifesté en 2019, on s'en souvient.
Ils avaient été tabassés surtout aussi.
Oui, ils en avaient pris plein la figure demandant plus de moyens, en disant qu'ils n'étaient pas suffisamment équipés ni qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux sur le territoire, et que si jamais un jour on avait une catastrophe, on ne pourrait pas faire face. Et force est de reconnaître que finalement, ça leur a donné raison. D'ailleurs, des pompiers qui demandent notamment à ce que la part de la taxe sur les assurances qui finance les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, cette part de taxe sur les assurances, soit doublé. Donc il y a d'ores et déjà une piste. Maintenant, que peut-on faire pour donner de vrais moyens aux pompiers, quoi?
C'est formidable, tu parles d'assurance. Je rappelle qu'il y a une voiture qui a brûlé, une camionnette qui, elle, était assurée. Et aujourd'hui, nous avons, nous, les plus grandes difficultés à trouver le nom de cet assureur. Je pense que c'est le secret le mieux gardé de France. Donc, à un moment, oui, l'assureur en question, il doit payer. Il y a 5 campings qui ont été balayés, des forêts entières. Je rappelle que le code des assurances, même si tu es assuré au tiers, le tiers, c'est tout ce qui a été brûlé. Où est l'assureur de cette camionnette? Moi, ça fait plusieurs fois que je pose la question. J'ai interrogé un certain nombre d'assureurs. Ils me répondent tous, pour l'instant, moi non plus, je sais pas qui c'est. Et c'est le secret de me garder de France. Donc, il serait peut-être temps qu'on identifie qui est l'assureur de ces camionnettes pour justement parer ces indemnisations en question. Et après, concernant les pompiers, c'est terrible.
Qu'est-ce qu'on leur donne comme moyen, quoi?
Mais qu'est-ce qu'on leur donne? Aujourd'hui, moi, je tiens à saluer. J'ai eu mes confrères en Aquitaine. Je tiens à saluer toute la mobilisation qu'il y a, notamment nos amis agriculteurs. Les agriculteurs, ils utilisent leurs tracteurs pour aller arroser, aider les pompiers. Il y a une mobilisation formidable de la population en Aquitaine. Ils aiment leur région, ils sont tous mobilisés, ils sont tous derrière. Et ils veulent surtout pas, de leur côté, de polémique. Ils veulent continuer à lutter contre ce feu terrible qui, rappelons-le, va durer jusqu'en octobre.
2 250 000 pompiers volontaires en France, quasiment 252 000, dont 198 000 qui sont des pompiers volontaires, représentent 78% aujourd'hui des équipes. Je me dis, bon, c'est bien le volontariat. Quand tu es volontaire, pompier volontaire et que tu vas sur le terrain, non, mais tu es rémunéré, enfin, ou plutôt tu es indemnisé à hauteur de 8 euros
net.
8 euros de l'heure. Est-ce qu'il serait pas temps aujourd'hui de se dire, ben, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une, tu comprends ce que je veux dire, une armée de pompiers, c'est-à-dire de dire, engagez-vous,
comme Paris-Marseille,
voilà, comme les Paris-Marseille effectivement, et qu'on ait, si tu veux, des gens qui soient maillés partout sur le territoire, et ce qui n'enlève pas les pompiers volontaires, mais puisqu'on va être confronté de plus en plus à ce genre d'incendie. Bruno Poncet, c'est-à-dire un vrai service public du pompier, quoi.
On avait parlé avec le représentant des pompiers, enfin le porte-parole des pompiers qui était venu à l'émission au mois de juillet. Lui, il expliquait que c'était pas... Alors, il y a des problèmes de moyens, évidemment, de moyens techniques, on avait avec les Canadiens et tout, mais lui, il expliquait surtout que c'était le maillage du territoire. C'est-à-dire qu'on a fermé des petites casernes un peu partout, ouais. Alors qu'avant, il y avait quasiment une caserne dans chaque petite ville, même des fois dans des villages. Effectivement, tout était plus réactif et ça allait beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, il y a un problème de maillage de territoire. Après, pareil, moi, j'en avais posé la question sur la professionnalisation du métier. Et lui disait que c'était très bien d'avoir des pompiers volontaires parce que ça permettait... déjà. Et puis, en plus, c'est une vraie vocation. Moi, j'étais en vacances avec un jeune qui est pompier volontaire. C'est une vraie vocation. Le gamin, il m'en parlait quasiment tous les jours. C'est assez incroyable. Mais par contre, le sujet, c'est comment les entreprises font pour laisser partir les gens quand il y a du boulot. Et on sait que des fois, les entreprises peuvent pas.
Vu, il y avait l'appel la semaine dernière à libérer, toi tu l'as relayé auprès des restaurateurs, à libérer tous ceux qui sont pompiers volontaires. Mais ce qui n'est pas simple.
Les grandes entreprises l'ont fait, le groupe comme AXA a libéré, Carrefour, toutes les grandes boîtes, les grandes entreprises.
Les grandes peuvent peut-être, mais les petites.
Les artisans, nous, c'est plus compliqué effectivement de libérer.
Tu es sur un chantier, sur un toit, en train de refaire un toit, tu peux partir dans la
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on, Barbara Lefebvre?
On peut aller vers une professionnalisation, peut-être pas comme on l'a fait dans d'autres domaines de façon massive, mais on peut monter en gamme sur cette question de professionnalisation. Mais Stéphane disait oui, en Gironde, les gens ne veulent pas partir dans les polémiques. Oui, ne polémiquons pas. Mais enfin, gouverner, comme dirait l'autre, c'est prévoir. Je crois que à la fois les méga-feux dans le monde entier, mais aussi l'aggravation du réchauffement climatique, le fait qu'on a quand même des feux récurrents. Alors l'année dernière, il y a peut-être eu des inondations, mais sinon c'est des feux.
Et
on voit
aussi,
bien qu'on a un véritable problème en France à entendre les gens de terrain, les petites gens du terrain. Donc, on a eu les médecins, les soignants, les paramédicaux qui pendant des années, pas pendant un mois, pendant des années ont dit attention, c'est très grave ce qui se passe à l'hôpital public. Oh ben non, et vas-y que je te fais des réformes, les Marisol Touraine et compagnie. Parce que tout ça, n'oublions pas, je veux dire, excusez-moi, je vais pas revenir avec ce qui peut apparaître pour certains comme une lubie, mais enfin, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Donc, qui tient les cordons de la bourse dans un gouvernement? Donc, quand on nous dit oui, mais il dirigeait pas sous Hollande. Je vais vous dire, quand vous êtes secrétaire général adjoint de l'Élysée et que ensuite vous êtes à Bercy, c'est-à-dire c'est vous qui décidez pour chacun des ministères, on verrouille ou on donne. Excusez-moi, vous avez un énorme pouvoir. Donc, ça fait 10 ans, maintenant, bientôt on en aura 15. Ça fait 15 ans que, quelque part, c'est la logique macronienne des économies et des serrages de boulons qu'on subit, en particulier dans les services publics. Donc maintenant, à chaque fois qu'on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que là, ça y est, on tape la tête sur le mur, on va faire une réunion pour prévenir les problèmes. On va faire un grand débat pour voir qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver comme solution. Déjà, avec l'argent qu'il a dépensé dans les cabinets de conseil, il devrait en avoir beaucoup. Des cabinets de conseil qui lui conseillent d'être encore plus ultralibéral. Or, je pense qu'il a quand même un peu compris que l'ultralibéralisme, c'est exactement ça qui nous conduit dans le mur. Donc, excusez-moi, mais moi, qu'on m'annonce que l'Élysée va faire une réunion avec les pompiers et les élus pour savoir mais qu'est-ce
c'est
qu'on
positif,
pourrait bien faire
Barbara,
dire, on est dirigé
moment,
par qui
s'il en fait rien,
par des amateurs
tu critiques, s'il fait quelque chose, tu critiques.
Il
faut aussi un peu de civisme de la population. Moi, je lisais un article.
Ah, ça y est, c'est la
population. C'est un fait. Attends, il faudrait aussi rendre davantage payantes les interventions parce que la mission du pompier, elle n'est pas bien connue. Un appel sur deux, c'est pas moi, c'est les pompiers qui le disent. Un appel sur deux, il est abusif. Quand t'as des gens qui appellent, c'est certainement très drôle entre copains, mais quand t'as des gens qui appellent, je vais donner un exemple. Le coup de l'aveugle qui est dans le noir, c'est pas la mission du pompier. Enfin, je veux dire, c'est.
Mais là, on te parle
c'est
des certainement... feux, on te parle
mais
pas
moi,
de...
je te parle aussi des appels où des pompiers sont mobilisés. Aujourd'hui, tu mobilises des ressources parce que tu as un flux. Le pompier aujourd'hui.
Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas
plus,
assez.
Il fait plus plombier. Il va plus chercher le chat qui est perché dans un arbre. Il va avoir des missions qui ne sont plus.
Le chat qui est perché dans un arbre. Si. Ils viennent plus les pompiers pour
mais,
ça.
Mais il facture aujourd'hui
pour les gars.
Le facture. Donc aujourd'hui, tu appelles les pompiers pour tout et n'importe quoi.
Il faut de ramener ça.
Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les pompiers. C'est un appel sur deux.
Là, on est en train de te parler des sous-effectifs pour traiter des méga feux.
Mais Barbara, quand t'es chef d'entreprise avant.
Avant
de remplir et d'empiler des salariés dans une entreprise, tu vérifies que chacun fait bien son travail et qu'il n'y a pas des excès. Et aujourd'hui, l'excès que je te souligne, il est factuel, il vient pas de moi, il vient des pompiers. Un appel sur deux, il ne sert à rien.
Eh bien moi, l'excès que je viens te souligner, c'est que de plus en plus, on rogne dans la qualité des services publics parce que ça a été depuis 30 ans la logique de tous les locataires de Bercy de dire... On va sous-traiter à des entreprises privées qui feront le job bien mieux que le
petit
fonctionnaire.
Qui nous écoutent, donc moi, je suis navré. À payer moins d'impôts.
C'est pas comme ça.
Tout ce que tu dis là, ça veut dire c'est de l'impôt.
Donc à un moment, c'est pas de l'impôt.
Les gens, ils sont pas.
Les pompiers, tu les payes comment,
Bruno Poncet? Bah justement, c'est la question aujourd'hui de savoir.
Les gens, ils sont contents de payer des impôts s'ils ont des services publics gratuits. Aujourd'hui, leurs services publics ne sont plus gratuits. Donc là, les gens, ça leur fait poser des questions sur les impôts, ça c'est sûr.
Moi, j'ai un.
Mais Barbara a entièrement raison. Ça fait des années que. On dégomme les services publics et qu'aujourd'hui on a un sujet. Là, effectivement, on parlait de financement. Parce que, évidemment, ça va avoir un coût. Enfin, quand tu dis que l'été, t'en as besoin. Mais après, on va voir les inondations qui vont vite arriver. Hein. Parce que quand ça va pleuvoir sur une terre qui est sèche comme elle est là, bah, évidemment, on va faire des inondations.
Ah oui,
et à chaque fois, c'est toujours des gens qui sont sur le qui-vive. Donc, à un moment donné, oui, effectivement, il y a besoin de remettre peut-être des pompiers dans des villages. Et le financement de tout
ça. Il en manque 14 000. Si on voulait mailler correctement le territoire national, c'est un rapport des pompiers eux-mêmes qui le disent. Alors, tu vas me dire que c'est facile, ils prêchent pour leur propre paroisse, mais ils disent, si vous voulez aujourd'hui qu'on ait un maillage d'intervention correct, nous devrions être 14 000 de plus, mais pas 14 000 volontaires.
Il y a aussi peut-être des crises de vocation.
14 000 sûrement professionnels. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut envisager une plus grande professionnalisation des pompiers, puisqu'on nous dit que ces méga-feux jusqu'en octobre, effectivement, avec cette chaleur qui n'arrête pas de monter sur le territoire. Regarde, on a eu des incendies dans le Morbihan, des incendies dans le Jura, des incendies où jusqu'à présent, on n'en avait jamais eu. Donc, il faut repenser le modèle.
Et il faudra aussi souligner, et Stéphane pourrait le souligner aussi sur cette question-là, il y a aussi des pompiers agressés. Parce qu'en plus, vous faites ce boulot.
Il y a encore un groupe de pompiers qui s'est fait agresser dans un foyer.
Et quand vous arrivez pour éteindre les énièmes feux de poubelle à minuit ou à 2h du matin, vous prenez un frigo sur la tronche.
Il faut renforcer la protection, évidemment, de nos pompiers. Mais lorsqu'ils sont en intervention, moi je l'ai vécu, quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, il y avait une intervention de feux de poubelle à la ZUP au quartier des Coteaux de Mulhouse. Une intervention de pompiers. Ils viennent pour éteindre un feu. Il y a un gamin, racaille, qui jette une barre de fer. Le pompier se la prend dans le crâne. Il est paralysé à vie. Sa vie, elle est foutue. Donc, tu peux pas simplement dire faut recruter plus. Il faut avoir une fermeté avec ces racailles qui agressent nos pompiers. C'est quand même assez incroyable d'être dans un pays où certaines personnes agressent en toute impunité nos pompiers. Ça, c'est, il faut renforcer le dispositif pénal et avoir des sanctions beaucoup plus fortes.
Après, je suis pas sûr que l'idée de doubler la taxe assurance qui permet de financer les SDIS, je crois que c'est à hauteur d'un milliard, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, j'en sais rien. Mais si tu veux une taxe sur les assurances, de toutes les manières, à un moment, l'assureur, lui, si tu doubles la taxe, il va forcément monter la prime, ou il va monter la police,
On est rassuré, il va y avoir
une réunion à Livre Blanc,
une mission flash, parce qu'on ne sait plus combien on va en faire, des missions flash, et on va bien nous trouver, Emmanuel Macron va nous trouver une solution, parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Donc le problème, il est là, c'est on n'y avait pas pensé avant. Je suis désolée.
Sauf que les rapports, ils existent
déjà. Des rapports ministériels, des rapports parlementaires.
Des décennies, Barbara,
qu'on a
ce sujet.
Il y en a, on peut caler 15 armoires, je ne sais pas.
L'exemple que je te cite, il date d'il y a 30 ans,
volontairement. Que ce soit la santé publique, l'éducation nationale, la prévention, l'ordre public, la police, tout ça, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. C'est d'abord déjà respecter le petit fonctionnaire, ce serait bien, au lieu de continuellement leur cracher dessus. Soit les pauvres, c'est des feignasses, les médecins, ils veulent rien faire. Donc pendant des années, hein, on a méprisé le petit fonctionnaire, et ça venait aussi de gens de gauche qui soi-disant, dans la gauche de gouvernement, qui soi-disant respectaient les fonctionnaires. Ils n'ont rien respecté du tout. Donc maintenant qu'on en revienne à respecter le petit fonctionnaire, celui qui ne travaille pas, la haute fonction publique.
On peut aussi considérer que dans la fonction publique, il y a des abus. On peut aussi considérer qu'à une époque, moi, on me racontait une histoire dans des bureaux où chacun venait avec deux vestes. Il laissait une veste sur le siège. Il partait, il rentre à la maison. Ah, t'as pas vu Colette? Elle n'est pas là, Colette. Regarde, il y a sa veste, je ne sais pas où elle est. Ouais, dans les bureaux, ça existe aussi. Et le dénoncer, c'est pas être anti-fonctionnaire. C'est juste être factuel, et à un moment, il faut chasser ceux qui font des abus.
Ouais, tu sais, il y a aussi des patrons l'histoire. Qui ne foutent jamais les pieds dans leurs entreprises et qui laissent bosser les
merci
salariés.
Merci de
et
cette anecdote sur Colette.
Voilà, on aurait bien aimé.
Et ce type-là, son entreprise, elle ne va pas durer longtemps.
Stéphane, Barbara, Bruno, dans un instant avec vous, ces militants écologistes radicaux qui percent les jacuzzis, qui saccagent les golfs, sont des emmerdeurs ou des sauveurs. On vous attend au 32-16.